autre expression, c'est l'État patron. Effectivement, l'État patron, il a poursuivi la même politique que les compagnies houillères. Les compagnies houillères ont été nationalisées parce qu'effectivement, déjà, le patronat était un patronat collaborationniste à l'époque. Mais on peut estimer que l'État a poursuivi la même politique vis-à-vis des mineurs, vis-à-vis des travailleurs, que les directions patronales des houillères à l'époque. Ça, c'est...
Sauf peut-être à la parenthèse de 1945 jusqu'en 1947, où le Parti communiste était quand même était aux affaires. Et là, alors c'est vrai qu'il y a eu la bataille du charbon, hein, qui a été menée surtout pour s'affranchir d'une potentielle tutelle américaine. Mais il y a eu des avantages, notamment le statut des mineurs, qui a été obtenu grâce à la présence de la CGT et du Parti communiste. Tout va se dégrader à partir de 1947, de l'entrée dans la guerre froide. Et là, l'illustration la plus tragique de cette dégradation, ce sera la grève de 1948. Là, l'État patron va être mis en cause. Déjà par le Parti communiste à l'époque, qui dénonce aussi déjà la notion de... Enfin, déjà, il le faisait avant, mais il revient sur la notion de fatalité, etc., qu'il pointe du doigt. Donc, évidemment, les compagnies minières jusqu'en 1944, nationalisation des houillères du Nord-Pas-de-Calais en 1944, 1946, nationalisation des charbonnages. Et évidemment, à partir de 1948, la situation va largement se dégrader. Donc, c'est bien l'État patron, les pouvoirs publics, qui sont mis en cause, notamment lors des deux tribunaux populaires, hein, de Lens et de Liévin.
Parlons autre page de l'histoire qui n'est quasiment jamais abordée, c'est le cynisme des patrons des compagnies minières, puisque les 42 mineurs tués n'ont pas été payés du 27 décembre au 31 janvier. Sur leur fiche de salaire qui a été adressée à leur veuve, il était indiqué « absence injustifiée ». Cette page de l'histoire n'est quasiment jamais abordée.
En fait, on leur a fait payer les vêtements qu'ils portaient et qu'ils n'ont évidemment pas pu rendre. Et ça, c'est vraiment... Alors, ça peut paraître pour certains un point de détail, mais c'est quand même significatif de ce que tu appelles le cynisme, hein, des houillères. Et ça a été très, très, très mal vécu par les veuves de mineurs, mais par la corporation dans son ensemble.
Il y a quelque chose qui éclaire un petit peu le monde tel qu'il va. C'est la lutte de classe. La lutte de classe, c'est une classe sociale en exploite une autre, et la classe patronale ne fait jamais de cadeaux à la classe ouvrière. Jamais. Alors ça peut prendre des formes extrêmement diverses et extrêmement nouvelles au fil des temps, mais cette guerre de classe, elle est permanente et elle se poursuit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'elle se poursuit à bas bruit? Sans doute qu'on en parle moins, mais dans la réalité, elle est... complètement à l'œuvre. Vos collègues du magazine Challenge sortent chaque année la liste des 500 fortunes de France. Les 500 plus grandes fortunes de France, elles possèdent à elles seules 1200 milliards d'euros en France. 1200 milliards d'euros. 1200 milliards d'euros, c'est presque la moitié du PIB de la France. Autrement dit, 500 personnes détiennent la moitié du PIB de la France. Pour en arriver à des constats comme ça, ça signifie de l'exploitation des hommes et des femmes, l'exploitation de la nature, des dégâts considérables, et sociaux et environnementaux. Et ce qui a été appelé cynisme ou mesquinerie, parce qu'on fait payer les vêtements de personnes qui sont décédées, c'est permanent dans une guerre de classe. C'est une réalité que... Alors là, on élargit un petit peu, on dézoome un petit peu sur la question de la catastrophe de 1974, mais ça s'inscrit dans cette réalité de guerre des classes qui est... qui est permanente et qui s'aiguise de plus en plus. Hein, plus notre système est en crise, plus cette guerre de classe, elle s'aiguise.
Ces catastrophes, hein, qui sont succédées, témoignent de la violence, hein, pas seulement de la fatalité, mais d'une forme de violence de l'exploitation ouvrière, hein. Est-ce qu'on la retrouve partout dans le monde et est-ce qu'on a des modèles un peu différents qui valorisent davantage les travailleurs et qui les protègent aussi plus qu'on l'a fait et peut-être plus que ce n'est fait encore pire ailleurs?
Alors, le premier point, c'est notre système économique, hein, le capitalisme, c'est un système global. Je dirais, il n'y a aucun centimètre carré de la Terre qui est sous cloche en dehors de ce système. Donc, un tel système fait des dégâts partout, et de plus en plus. Alors heureusement, il y a effectivement des luttes qui sont menées pour y résister, et puis des alternatives qui se mettent en place. Alors Il y en a de nombreuses alternatives. Hein. Il y a vraiment des groupes de personnes qui essayent de contourner le système, d'adapter des choses. Mais ce sont des résistances dans le cadre d'un système qui contrôle tout. Aujourd'hui, on parle de mondialisation. Ce système, il est prédateur partout. Hein, on se souvient, il y a quelques années, de la catastrophe du Rana Plaza. Hein, toutes ces femmes, majoritairement, qui ont été tuées par l'effondrement de leur immeuble, alors qu'elles travaillaient dans des conditions déplorables pour des firmes telles que Nike ou des grandes firmes multinationales. Mais cette réalité, elle est partout. Alors, il y a des résistances. On essaie de mettre en place des alternatives. Il y a des personnes qui essaient de construire des économies différentes. Nulle part on est épargné. Nulle part on est sous cloche. Il n'y a pas de système autonome qui fait qu'on peut éviter la prédation capitaliste.
Il y a eu des expériences quand même dans certains pays, comme les expériences socialistes en Union soviétique. Alors ça, nous, on n'a pas tranché là-dessus. Ce n'est pas notre rôle de collectif de trancher sur la validité de ces expériences. On peut faire des parallèles. Il y a eu quand même des protections de travailleurs. Il y a eu des droits qui ont été accordés. Et on peut dresser des parallèles depuis la restauration. Par exemple, l'exemple de l'Ukraine, depuis 1990 à 2010 à peu près, depuis la restauration du capitalisme en Ukraine, l'espérance de vie a quand même baissé de 20 ans. Donc il y a quand même des systèmes, malgré toutes leurs imperfections, qui ont peut-être amené des choses à la classe ouvrière. Alors pourquoi ils se sont effondrés, tout ça, c'est un autre débat. Mais il faut quand même puiser dans ces expériences-là pour essayer de tracer un avenir meilleur pour la classe ouvrière.
Mais si on prend par exemple un continent qui est l'Afrique, hein, qui a été un peu exploité par la France, d'une certaine manière, on peut peut-être y revenir, mais qui maintenant est exploité par d'autres pays, certains étant post-maoïstes peut-être d'ailleurs, est-ce que justement cette concurrence entre les pays n'amène pas à un nivellement par le bas des protections ?
Moi, je ne parlerai pas de concurrence entre les pays, parce que les États aujourd'hui, ils sont au service de leur bourgeoisie et de leurs économies. De leurs économies bourgeoises. Donc il y a une concurrence entre les bourgeoisies, parce qu'il y a une concurrence entre les firmes, les multinationales de ces pays. Puisqu'on parle de l'Afrique, vous savez, l'Afrique comme partout, pour nous la solution elle est dans l'émancipation des hommes et des femmes. Autrement dit, c'est quand même incroyable aujourd'hui que je reprends l'exemple de la France, que 500 personnes puissent posséder la moitié du PIB de la France. C'est quand même assez extraordinaire. Alors qu'on parle de casse des services publics, alors qu'on parle de personnes qui n'arrivent pas à se loger, alors qu'on parle de... ce matin, j'écoutais à la radio, on parlait encore de contrôler les personnes et les arrêts maladie des personnes. Autrement dit, c'est un débat aujourd'hui. Il y a des travailleuses et des travailleurs qui profitent un petit peu du système en se faisant prescrire des arrêts maladie de manière indue. Moi, je veux bien, mais là, on est dans l'épaisseur du trait des problèmes. Quoi. C'est, nos problèmes aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont systémiques. Systémiques, ça signifie que... moi, je reviens sur cette question de guerre des classes. Ça signifie qu'il y a des classes qui en exploitent une autre. Et, effectivement, on peut mettre en place des alternatives. Moi, je suis très impliqué dans les alternatives d'économie sociale et solidaire, par exemple, mais... C'est important, toutes ces initiatives. Ceci étant, il ne faut pas perdre de vue le cap. Le cap, c'est on a un système prédateur qui, de toute façon, avance et nous emmène dans le mur. Hein. Il est en crise et dans sa crise, il nous emmène dans le mur. Voilà, donc là, on s'est un peu éloigné de l'IVA 74, mais ce sont des problématiques qui, pour nous... relève de la même analyse. Quoi.
Mais si la solution pour un meilleur équilibre, c'est l'émancipation, on voit bien que l'éducation, peut-être, qui pourrait remplir ce rôle, et dans ces parties-là, hein, pas forcément valorisée pour que les enseignants puissent travailler sur ces domaines-là. Et justement, dans les pays qui sont nouvellement, d'une certaine manière, colonisés par d'autres, enfin d'autres sociétés, hein, on va résumer comme ça, quelque part, il n'est pas sûr que la population puisse avoir accès à un niveau de connaissances et des compétences qui lui permettent de résister et de s'émanciper.
Oui, mais... c'est pareil, l'éducation, elle n'est jamais neutre. L'éducation, dans un système donné, elle est aussi conditionnée, mise en place dans le cadre de ce système. Donc si on parle de l'éducation, à la fois elle est victime d'un manque de moyens criant. Bon, ça, je pense que les syndicats enseignants en font la démonstration très régulièrement. Il me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a grève des enseignants, au moins d'une partie des enseignants, sur ces questions-là. Mais aussi sur le fond, l'éducation, c'est l'éducation telle qu'elle est mise en œuvre, elle n'est pas étanche des problématiques du système. Autrement dit, aujourd'hui, on a un système qui met en place la compétition de tous contre tous. Et ça, l'éducation, elle n'est pas étrangère à ça. Y compris, elle véhicule ça aussi. Quand on parle d'émancipation, pour nous, c'est... Je vais reprendre Marx. L'émancipation des travailleuses et des travailleurs, elle sera l'œuvre des travailleurs et des travailleuses. Autrement dit, c'est les gens eux-mêmes qui doivent se prendre en charge. Voilà, je ne sais pas si on s'éloigne pas un petit peu de la problématique. Mais... Le point le plus important pour nous, quand même, c'est toutes les personnes qui vont participer aux commémorations officielles. Nous, on n'en veut pas aux personnes, quoi. C'est des gens comme vous et moi qui se posent des questions, qui essaient de s'en sortir dans la compréhension de ce qui s'est passé. Donc, nous, les personnes qui participent, c'est sûrement pas nous qui allons les culpabiliser ou qui allons les montrer du doigt. C'est pas ça du tout. Par contre, effectivement, notre commémoration à nous, sur le sens qu'on souhaite lui donner, autrement dit, revenir sur les questions de fatalité, revenir sur les questions de le sens du travail, le sens du travail des mineurs, ça, on tient à notre commémoration. Autrement dit, on tient à mettre en place des initiatives qui donnent un autre sens à ce qu'a été cette catastrophe, quoi.
Et votre regard sur les fêtes de la Sainte-Barbe ?
Enfin, moi, je suis particulièrement anticlérical, donc je ne vais pas m'impliquer dans une fête religieuse. Et je l'ai répondu tout à l'heure, Sainte-Barbe, apparemment, elle n'a pas fait son boulot. Ou elle a fait, je ne sais pas, ou c'est la bouteille à moitié vide. Elle a peut-être sauvé des gens et... Ça rappelle aussi, ça renvoie au rôle de l'Église en lien avec les compagnies minières. Enfin, ça, voilà, les prêtres jouaient le rôle de garde-chourme en matière de conscience. Donc, il y a quand même aussi chez nous un rejet, non pas de l'Église en tant qu'institution, mais du rôle qu'ont pu jouer les prêtres, notamment au sein des compagnies minières, jusqu'à la nationalisation. Il y avait quand même aussi des écoles des mines qui étaient privées, qui étaient parfois gérées par les compagnies minières. Donc, Sainte-Barbe, on va pas, je vois pas, c'est pas dans notre logique de célébrer une sainte. Bon, après.
Encore une fois, nous, nos initiatives, elles ne sont pas contre la commémoration officielle, elles ne sont pas contre les initiatives des autres, elles ne sont pas contre les institutions du territoire. Notre propos, il n'est pas là. Notre propos, il est de mettre un focus avec un autre éclairage. Voilà, un autre éclairage qui nous semble important de ne pas négliger. Que la municipalité de Liévin, que l'agglomération mettent en place des initiatives... Ça ne nous gêne pas. Nous, on souhaite qu'il y ait un autre éclairage et on souhaite l'apporter. Voilà.
Après, on peut être ouvert à tout débat aussi. On peut être ouvert à tout débat avec la municipalité. Si la municipalité décide d'organiser un débat sur le sens à donner à une commémoration, nous, on est partie prenante. Pourquoi pas, ouais, ça peut faire évoluer les consciences. Le positionnement anticlérical existait chez les libre-penseurs. Il y avait quand même un mouvement libre-penseur qui était présent, prégnant chez les mineurs, chez les anarcho-syndicalistes aussi, par les syndicats portés par Benoît Brouchou, notamment lors de la catastrophe de Courrières. Donc tous ces mineurs-là ne célébraient pas la Sainte-Barbe. Par contre, évidemment, c'est côté commercial, c'est dans l'air du temps. Franchement, moi, je m'intéresse pas forcément à ces célébrations liées au 4 décembre, quoi. Mais c'est vrai que la Sainte-Barbe c'était aussi un jour de repos à l'époque. C'était un jour de célébration, un jour de fête familiale. Donc il y avait un caractère et de revendication. Ouais, enfin, j'ai pas vu beaucoup de quand tu compulses les archives, tu vois pas forcément des revendications liées à ce jour-là. Il n'y a pas que cette dimension religieuse. Moi, je veux bien croire. C'était aussi, on se retrouvait en famille, on s'offrait des cadeaux, on s'envoyait des cartes. Voilà. Et nous, on peut dénoncer aussi cet aspect un peu. Il y avait quand même un aspect à la base religieux. Et dénoncer la Sainte-Barbe, ce n'est pas dénoncer la Sainte-Barbe en soi, c'est dénoncer le rôle de l'Église en tant que complice des crimes des Houillères.